l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence sur le Causse 106.5.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Présence midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce lundi 30 mars. Dans un instant, direction le sanctuaire de Lourdes pour évoquer avec David Torchala l'actualité du sanctuaire. On détaillera le programme de la semaine sainte dans le sanctuaire de Lourdes. Et puis on restera à Lourdes puisqu'on va parler à midi 30 de ces bénévoles qui donnent du temps pour le message de Lourdes. Et ces bénévoles, ce sont les hospitaliers. On écoutera dans un instant à 12h30 Claude Chevalier. C'est le trésorier de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Il va nous livrer son témoignage au micro de Mathias Terrier. C'est dans l'émission De Passage à Lourdes. Et puis, direction les Hautes-Pyrénées avec les marcheurs argelésiens qui organisent une marche pour récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer à l'occasion d'une opération qui s'appelle Mars Bleu. Mars Bleu, c'est la promotion du dépistage du cancer colorectal. On en parlera avec le reportage qu'a réalisé Philippe Subercaz à Reims-Marsou. Ce sera dans quelques minutes. Voilà pour les grandes lignes de cette émission. Exceptionnellement aujourd'hui, pas d'actualité régionale. Je vous souhaite un bon appétit à vous qui nous écoutez. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Radio Présence à Toulouse, 97.9.
L'actualité du sanctuaire de Lourdes, c'est chaque semaine avec vous, David Torchala. Bonjour David.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Vous êtes le responsable de la communication et des ressources pour le sanctuaire de Lourdes. Et à Lourdes, comme dans toutes les églises catholiques, la semaine sainte a commencé hier dimanche, dimanche des Rameaux.
Ah oui, nous avons largement béni les rameaux sur l'esplanade du Rosaire avant que toute l'assemblée puisse fendre cette grande esplanade avec beaucoup de monde pour rejoindre la basilique souterraine et puis entendre le récit de la passion. C'est cette passion aussi du Christ que nous allons tous vivre cette semaine avec un très beau programme de célébration qui est un très beau tridôme qui est préparé par les chapelains du sanctuaire. Si vous le pouvez, venez vivre la semaine sainte à Lourdes. Évidemment, il y a énormément de propositions dans les paroisses, elles sont riches, mais voilà, si l'envie vous en dit de venir vivre la passion du Christ sous le regard de sa mère, évidemment que vous êtes les bienvenus à Lourdes. Il y aura notamment donc le jeudi saint, une grande célébration à la basilique souterraine Saint-Pédis. Il y aura aussi, et ça c'est une nouveauté, le vendredi saint, un chemin de croix nocturne dès 21h sur l'esplanade du Rosaire, un chemin de croix dit au flambeau, comme on aime célébrer à Lourdes. Ça sera très beau, très, très intimiste, et puis ce sera évidemment tout le reste de la journée l'occasion aussi de vous rendre sur le chemin de croix des Espélugues, cet immense chemin de croix monumental qui fait 1500 mètres avec plus de 115 statues à taille humaine qui surplombe le sanctuaire et est vraiment un lieu très fort pour pouvoir méditer cet épisode de la Passion. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce chemin de croix sera également restauré dans les mois et peut-être d'ailleurs les années à venir parce qu'il est assez grand, donc il n'est pas trop tard pour s'associer à cette générosité. Et puis également la lumière qui va nous venir lors du soir de la vigile pascale avec la bénédiction du feu nouveau et cette vigile Saint-Pie-d'Hyl, cette célébration qui se vivra à l'intérieur de la basilique souterraine Saint-Pie-d'Hyl. Vraiment, le programme est riche, et puis voilà, une proximité aussi avec la communauté des Chapelains, c'est vraiment à vivre si vous le pouvez.
La Semaine Sainte qui marque également le début de la saison des pèlerinages pour le sanctuaire de Lourdes, avec une journée aujourd'hui un peu particulière puisque la communauté d'accueil se réunit au sanctuaire. C'est le début de la saison, clairement. Hein.
Ben oui, et c'est aujourd'hui, c'est un peu jour de fête, on a envie de dire, parce qu'on est heureux de tous nous retrouver. Quand on dit tous, ce sont à la fois les salariés, les bénévoles, les religieux, les religieuses et également le personnel saisonnier. Tout le monde est là, tout le monde est prêt, mais c'est l'occasion de prier à la fois les uns pour les autres, pour s'encourager mutuellement dans la foi, mais aussi s'encourager à vivre une saison longue qui va nous amener jusqu'au dernier jour du mois d'octobre et premier jour peut-être du mois de novembre. Voilà une belle occasion. Et parmi eux, il y a notamment les nouveaux sacristains. Ils ont été en formation depuis 15 jours. C'est un groupe, vous savez, qui a quasiment 40 sacristains au sanctuaire de Lourdes. C'est peut-être le lieu en France où il y a le plus de sacristains, d'ailleurs. Je me demande, c'est certainement ça. Et en tout cas, ils ont été à l'école, sur les bancs de l'école de liturgique, on a envie de dire, de Lourdes, puisqu'on ne peut pas s'improviser sacristain. Et il faut découvrir. Le métier change aussi vis-à-vis des lieux. Vous savez que le Lourdes, c'est 3 basiliques, c'est 25 lieux de culte. En tout cas, il y a une très belle dynamique. Et on est sommes très heureux, particulièrement, de les accueillir en cette journée de fête pour la communauté d'accueil du sanctuaire.
Voilà, c'est un peu les coulisses du sanctuaire, hein, puisque les pèlerins ne le savent pas forcément, mais voilà, il y a cette rencontre annuelle deux fois par an, hein, avec donc la communauté d'accueil, c'est tous les salariés, c'est aussi un moment convivial, puisqu'à l'heure où on parle, eh bien, il y a un repas qui est
se déroule. Ben nous, on n'y est pas, donc, mon cher Gilles.
C'est l'histoire de quelques minutes.
Mais vraiment, dès que le micro est coupé, on file manger.
Voilà, on part à courant. Voilà, mais on est très heureux d'être avec les auditeurs, faut pas oublier.
Évidemment.
Mais quand même, le repas, bon, voilà.
Ah, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est sacré. Hein.
Alors, cette actualité, la Semaine Sainte, on peut retrouver le programme dans son intégralité sur lourdes-france.com. Et puis, il y a une autre date à retenir. Alors là, ça va vraiment concerner tous les auditeurs qui nous écoutent. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Que va-t-il se passer le 8 avril au soir?
8 avril, 21h10 sur France 3. C'est le Secret d'Histoire. Vous savez, cette célèbre émission présentée par Stéphane Bern. Cette émission sera dédiée à Bernadette Soubirous. Le enregistrement a été fait déjà en avril 2025. On se souvient de cette scène où en fait Stéphane Bern était en tournage dans le sanctuaire et on apprenait la mort du pape François. Donc ça a été un moment assez marquant. Nous avons tellement hâte de découvrir ce format, ces 2 heures d'émission. Secret d'Histoire, nous l'avons appris, c'est le format télévision le plus populaire en France. C'est 2 millions de téléspectateurs qui seront le 8 avril. Alors, il faut en être. Hein, voilà. Donc, tous avec la télécommande, ça va être très beau pour découvrir l'histoire de Bernadette, l'histoire des pèlerinages, l'histoire évidemment des apparitions. Et puis surtout, l'occasion pour nous de dire que l'histoire, elle continue. Hein, l'histoire ne s'arrête pas. Il y a des fondamentaux qui date de 1858, du moment des apparitions, mais elle continue de s'écrire chaque jour.
Alors racontez-nous un peu les coulisses, vous avez été évidemment la cheville ouvrière pour l'organisation donc de ce tournage. Comment ça se passe, un tournage de Secret d'Histoire dans le sanctuaire? Comment ça s'organise et comment un peu comment Stéphane Bern est venu, comment ça s'est passé?
C'est une très 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 longue préparation en amont. Pourquoi? Parce que avant d'être en contact avec le présentateur, évidemment nous sommes en contact avec les documentaristes. Et Élodie Mialet, vraiment elle a fait preuve d'un travail fourni, minutieux, incroyable sur Lourdes. Au départ, elle découvre le lieu et puis quelques semaines après, elle nous pose quelques questions pièges et quelques questions colles. C'est dire le niveau qu'ont les documentaristes de cette émission de Secret d'Histoire. Donc c'est préparé. C'est préparé à la fois le fond, le contenu, l'accès à nos archives. Il faut ouvrir les archives et il faut savoir guider également. Donc dégager les points forts, les points saillants qui peuvent intéresser les téléspectateurs et également faire un choix d'interlocuteur. Qui est-ce qui va être interviewé par Stéphane Bern. Donc ils seront présents, il y aura évidemment Monseigneur Mika, il y aura Monseigneur Jacques Perrier, l'évêque émérite de Tarbes-et-Lourdes, il y aura Cielo Ferral par exemple qui est accompagnatrice sur les pas de Bernadette, et puis il y en aura encore bien d'autres. Et c'est aussi les mettre en relation avec Nevers, parce que le tournage s'est également fait à Nevers, puisqu'on sait que Bernadette a rejoint Nevers pour vivre sa vie religieuse après les apparitions. Alors ça, c'est tout un temps, voilà, de travail de fourmi, et puis après, il y a les équipes qui arrivent. Alors là, c'est quelques caisses, quelques caméras, quelques éclairages, etc. Et puis surtout, avec un Stéphane Bert qui est extrêmement populaire. C'est là où on le voit. Il peut pas faire un mètre sans être arrêté, mais alors il se joue, il joue au jeu du selfie, il signe les autographes, etc. Et il a fait preuve avec nous d'une extrême proximité. J'ai envie de dire, il est un petit peu à la télé comme il l'est en vrai. Enfin, voilà. Et donc, c'était un moment très, très, très amical. Il nous a envoyé un message pour nous dire que malheureusement, il peut pas venir visionner Le Secret d'Histoire avec nous parce qu'il est lui-même en tournage au même moment. Mais vraiment un message chaleureux et il attend lui aussi de voir le résultat.
Résultat à visionner donc le 8 avril, vous l'avez dit, c'est sur France 3.
Oui, 21h10, 8 avril sur France 3.
Voilà, un Secret d'Histoire spécial Lourdes à ne pas manquer. C'est là-dessus bien qu'on va refermer cette chronique avec vous. Je vous laisse regagner le buffet.
Ah ben oui, voilà, il y a le buffet. Et puis une dernière chose, oui. Si vous ne pouvez pas venir à Lourdes pour cette semaine sainte, vous savez que nous retransmettons sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, les applications, il y a Lourdes Plus. Voilà, que personne ne reste seul. Vous pouvez également suivre à distance et être en communion avec nous sur tous les offices du Triduum.
Je crois qu'on peut même illuminer la Semaine Sainte si on souhaite s'associer.
Oui, on peut déposer un cierge qui sera allumé pendant la nuit de Pâques. Donc lourdes-france.com pour vous associer aussi par la lumière.
Merci David Torchala, je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et des ressources pour le sanctuaire. Bonne Semaine Sainte à Lourdes et à très vite.
À très vite, merci à tous.
Présence à Saint-Cirq-la-Popie, 92.5.
Gérard Moulinet, vous êtes le président d'une belle structure, les Montagnards Argelésiens. Vous organisez des marches, enfin, vous organisez pas mal de choses, vous allez nous l'expliquer. Et là, vous avez tenu à aussi organiser cette marche au profit de la recherche contre le cancer.
Oui, mais comme chaque année, l'association des Montagnards est impliquée dans la recherche pour le cancer. C'est une bonne cause, mais nous organisons une marche au mois de mars chaque année. Ensuite, on travaille aussi sur Octobre Rose, sur Argelès-Gazos. Et ensuite, on a travaillé aussi sur la lymphodème il y a un mois.
Pourquoi cette cause, une marche, le côté sportif, Madame Cuc, la présidente, elle a dit pendant son discours, c'est important hein, pour la santé et pour le cancer.
Mais tout à fait, de toute façon la marche, on se rend compte, on s'oriente de plus en plus aussi sur le sport santé, et qui plutôt que d'envoyer certaines personnes en maison de retraite et tout, le maintien à domicile et marcher, la santé, important.
Donc chaque année, vous organisez cette marche. Alors, côté marche le matin, et puis le midi, il y a un petit repas, un petit côté quand même sympathique. Et puis, il y aura un groupe qui va venir chanter.
Tout à fait. Mais de toute façon, il faut penser que le cancer, il n'y a pas que du mauvais. Il faut avoir le moral. Et le moral, c'est marcher ensemble, manger ensemble, rigoler ensemble.
Rappelez-nous, alors, votre association, en deux mots, c'est quoi ?
Mais l'association des Montagnards regroupe 500 adhérents, grosso modo. On a une grosse section de marche, randonnée. Ensuite, on a une section ski alpin, une section ski de fond compétition et une section ski loisirs. Voilà. Et également, on fait de la marche nordique, beaucoup d'activités.
Le siège social se trouve où ?
Le siège social se trouve 9 rue des Moulins, Argelès-Gazos.
Alors, pour entrer chez vous, comment il faut ? Il faut être aguerri ou n'importe qui peut venir ?
Non, c'est une association très familiale. Donc, on prend les inscriptions tous les mardis matins, on tient une permanence, et on a un site internet, Montagnard Argelésien, et vous trouverez toutes les informations dessus.
Combien de marches par an vous organisez ? Combien de sorties ?
Alors, on sort 3 fois par semaine en randonnée, plus 2 fois en semaine par marche nordique.
Toute l'année ?
Toute l'année, voilà, on est pris tous les jours.
Ah oui, d'accord. Et alors, c'est quoi les balades ? C'est que dans les Pyrénées ou vous allez ailleurs ?
Non. Alors, on a tous les niveaux. On a du niveau très débutant, jusqu'à 200, 300 mètres. On fait du 1000 mètres, on fait du 400 mètres. On tourne sur les Pyrénées, on tourne toute la France, on va en Espagne, on est allé au Maroc, tout ça, on tourne un peu partout.
D'accord. Et alors, vous allez peut-être avec les plus aguerris, là, quand vous faites des randonnées un petit peu plus loin ?
Non, on essaye d'adapter. Il y a des séjours, bien sûr, pour les plus aguerris, mais on fait aussi des séjours qui sont plus loisirs aussi, puisque, comme je vous disais, c'est un club aussi d'amis, et on part avec des jeunes, des moins jeunes, et ce qui fait la fraternité de notre club.
Comment vous partez? Vous partez toujours d'Argelès, de chez vous, ou alors ça vous arrive de vous donner rendez-vous dans des endroits? Ici, par exemple, nous sommes à la salle des fêtes d'Arens-Marsous.
Donc, on a un point de rendez-vous à Argelès. On fait du covoiturage, voilà. Et autrement, par exemple, si on va se vers Tarbes, on prend en passant à Lourdes, on essaye d'adapter. Mais on fait que du covoiturage.
Les gens qui sont dans votre association, ils viennent un petit peu de partout, ils ne sont pas forcément que d'Argelès.
On a des gens de tous les départements, on a des Bayonnais, on a des Toulousains, ben, on a beaucoup de monde puisqu'on est un club qui a beaucoup de choses, on apporte beaucoup de choses. Ouais.
Là, chaque année, pour cette marche, pour Mars Bleu, hein, pour vous changez de salle des fêtes chaque année, d'endroit, vous avez de suite l'adhésion des maires,
hein? Ah oui, les maires, mais de toute façon, comme l'a dit le maire d'Arès-Marsou, Jean-Pierre, hein, c'est une bonne cause, et puis on peut être tous touchés, il faut se le dire, on peut être tous touchés.
Donc c'est important de donner des messages de prévention.
Ah, tout à fait. Prévention, comme je peux vous dire, dans toutes les communes où on va, on est bien accueillis, on paye pas la salle des fêtes. Non, les maires jouent beaucoup le jeu.
Alors, pour terminer, côté pratique, et si les gens écoutent cette interview et qu'ils ont envie de venir vous rejoindre, comment on fait pour venir grossir les rangs de cette belle association?
Eh bien, vous venez tous les mardis matins, on tient une permanence à Argelès-Gazos, 9 rue du Moulin, et ensuite vous allez sur le site internet Montagnard Argelésien, et là vous trouverez toutes les informations pour vous inscrire même en ligne.
Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Merci.
Chantal Pastre, vous faites partie de la Ligue contre le cancer, vous êtes donc à Arès-Marsous pour cette opération Mars Bleu et ses marches. C'est quoi Mars Bleu en deux mots?
Mars Bleu, c'est le dépistage du cancer colorectal, qui est le seul dépistage qui permet, si vous voulez, le traitement de l'apparition de polypes qui vont dégénérer et faire des cancers. Donc c'est un dépistage qui est particulièrement important, et qui se fait en première étape avec un test pour découvrir si on a du sang dans les selles. C'est le premier appel. Et ensuite, donc, on peut passer une coloscopie. Cette coloscopie qui va permettre d'enlever les polypes. Donc c'est en ce sens que c'est radical comme geste. Et donc c'est des polypes qui pourraient dégénérer et faire donc postérieurement des cancers.
C'est un cancer très dangereux, je crois, le cancer colorectal.
C'est un cancer comme tous les cancers qui malheureusement peut métastaser. Et surtout s'il n'est pas pris à temps, il demande des traitements lourds et invalidants, oui.
Donc la promotion de pour le Mars Bleu, c'est vraiment la promotion déjà de ce kit. À acquérir ce kit et puis faire le test.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Vous avez tout à fait raison, c'est en effet pour faire en premier dans ce test pour dépister du sang dans les selles, puisque c'est au passage des selles que les polypes s'irritent et donc saignotent, et donc on a l'apparition de ce sang dans les selles.
Et alors, bien sûr, on attend le résultat quelques jours après. Une fois qu'on a fait ce test à la maison, on envoie donc le petit bâtonnet dans une fiole, et tout est gratuit. Hein.
C'est ça, le test est absolument gratuit. Vous pouvez vous le procurer auprès de votre médecin traitant, auprès des pharmaciens, les infirmières libérales aussi. Et nous distribuons, dans le cadre de cette campagne de prévention, des tests quand nous sommes en partenariat avec la CEPAM et Préventim. Nous sommes à distribuer ces kits.
Ces kits. Alors, les kits, je crois qu'ils sont donnés à partir de 50 ans.
De 50 à 74 ans, en effet, puisque c'est la tranche d'âge qui, en principe, est concernée le plus par les transformations cellulaires, donc l'apparition de cancer. C'est-à-dire que c'est justement le principe même du dépistage organisé. C'est organisé par l'ARS et par c'est l'État qui envoie, enfin chaque structure donc ARS va envoyer donc aux personnes une invitation pour faire ce dépistage.
D'accord. Donc on reçoit cette enveloppe. On remplit et puis on va recevoir son kit à la maison. Donc on le fait tranquillement.
Non, on le reçoit pas. On le reçoit plus à la maison spécialement. Ah. Maintenant, il faut aller donc le récupérer ou auprès du médecin traitant ou au pharmacien ou avec donc les infirmières libérales ou donc les fameuses structures auxquelles je fais allusion, Préventim et la caisse primaire avec les journées de dépistage.
C'est important ces journées où on allie la marche et puis cette association là, les marcheurs argelésiens, les montagnards argelésiens pardon, ils organisent chaque année cette opération Mars Bleu avec vous, avec la Ligue contre le cancer.
C'est ça, c'est vraiment il faut leur rendre un grand merci et vraiment être reconnaissant parce que c'est une action qu'ils mènent donc régulièrement chaque année. Ils ont cette fidélité avec nous, ils sont très concernés par donc les dépistages de quelque façon que ce soit. Et Et ils savent très bien que l'activité physique reste vraiment un des éléments importants pour, dans la prévention des cancers, pour vraiment éviter d'ailleurs beaucoup plus de maladies, même que les cancers, puisque les maladies cardiovasculaires, les diabètes, etc.
Pour terminer cet entretien, Chantal Pastre, si on veut plus de renseignements, on peut venir aussi à la Ligue contre le cancer, si on n'a pas tout compris sur ce qu'on vient de raconter, pour avoir le kit et tout ça, si c'est pas bien clair, on peut venir, bien sûr, à la Ligue contre le cancer.
Bien sûr, la Ligue contre le cancer est ouverte du lundi au vendredi, donc nous avons en effet donc des permanences matin et après-midi tous les jours, et donc nous pouvons bien sûr vous expliquer ce que sont dans ces kits, ce qu'est le dépistage en général, puisque il y a, vous le savez bien aussi, Octobre Rose, il y a aussi le dépistage du papillomavirus pour les jeunes adultes, garçons et filles, et il y a donc si vous voulez aussi des explications qui pourraient être fournies concernant les soins de support, et c'est-à-dire les soins que nous offrons aux patients et aux aidants pour mieux supporter la maladie et les traitements, et nous offrons aussi des services si vous voulez en termes d'aide financière, dans la mesure où il y a des conséquences sociales donc de cette maladie avec une amputation salariale, et donc nous pouvons nous payer des factures, donc on paie si vous voulez les créanciers, une facture d'électricité, un besoin une aide à une chambre seule, c'est varié.
Parce que la Ligue contre le cancer, ce n'est pas que la recherche, c'est aussi les aides ici dans ce département, à travers ces soins de support qu'on l'a dit, et ces aides financières.
Ah oui, absolument. Vous avez raison, c'est vrai que la recherche reste fondamentale, puisque c'est grâce à la recherche qu'on avance, mais qu'on connaît mieux la maladie et qu'on maîtrise mieux les traitements, mais c'est aussi, bien sûr, une aide à la population des Hautes-Pyrénées, puisque chaque comité est donc départemental. Donc les dons que vous reversez, et par exemple donc ces marches, hein, c'est des dons qui sont reversés par ce moyen de la marche, donc vont servir en effet à aider donc la population des Hautes-Pyrénées.
Voilà, à travers ses soins. Et donc on n'hésite pas, on va terminer par l'adresse bien sûr de la Ligue contre le cancer à Tarbes. Votre siège social se trouve...
Donc le siège social est 27 rue de Gonesse à Tarbes, et donc vous allez sur le site liguecancer65.fr.
Voilà,
et vous aurez toutes les données. Allez sur le site et vous découvrez nos activités, nos actions. Vous aurez donc des reportages. Venez, puis vous pouvez venir nous voir quand vous voulez, c'est avec grand plaisir.
Merci beaucoup Chantal Basse, on va vous laisser partir faire votre marche. Un grand merci, au revoir.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Et merci à Philippe Subercase donc qui a réalisé cette interview. Merci à vous aussi de nous suivre tous les jours sur Radio Présence dans cette émission Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, exceptionnellement aujourd'hui pas d'info régionale. L'info sera de retour sur notre antenne à 13h avec l'actualité nationale et internationale et la rédaction française de Radio Vatican. Dans un instant, on va parler de ces bénévoles qui donnent du temps pour le message de Lourdes. Ce sont les hospitaliers de Lourdes. Mathias Terrier va recevoir Claude Chevalier. C'est le trésorier de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Il va nous livrer son témoignage jusqu'à 13h. Bon appétit.
Les podcasts de Radio Présence. Podcasts de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Présence. De passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons le trésorier de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, Claude Chevalier. Bonjour Claude.
Bonjour Mathias.
Je préviens tout de suite, en fait, le sujet de l'argent va pas occuper énormément de place dans cette émission, même si vous vous occupez des finances d'une magnifique organisation qu'est l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, qui sont ses bras et ses cœurs, qui donnent chaque année énormément d'énergie à la transmission du message de Lourdes au sein même du sanctuaire Notre-Dame.
Tout à fait.
Et vous vous en êtes de ces hospitaliers. Et cette histoire, vous allez nous la raconter. Vous allez nous dire sans doute combien, même dans votre vie personnelle, familiale, Lourdes par petites touches successives, a beaucoup compté. Mais auparavant, Claude Chevalier, si vous permettez, j'aimerais que vous nous parliez tout simplement de ce qu'est ce rôle d'hospitalier. Ça sert à quoi un hospitalier à Lourdes? C'est tout un chantier, mais en gros...
C'est drôle. La façon dont tu rentres, Mathias, dans cette question, c'est celle que j'entends quand je fais Blablacar pour descendre de mon Anjou actuel jusqu'à Lourdes. Et sur le Blablacar, je descends tous les mois à Lourdes pour être hospitalier. Et j'ai à chaque fois la question, mais c'est quoi hospitalier? Vous travaillez dans un hôpital? Et c'est un super moment de discours et de dialogue avec les personnes pour dire ce qu'on fait à Lourdes. Alors, je leur dis ce que je fais, mais qu'il y a plein de missions et qu'ils écoutent avec attention les gens, ça les travaille, qu'ils soient croyants ou pas croyants d'ailleurs. Mais souvent, lorsque j'arrive à Lourdes, beaucoup de personnes se sont livrées déjà sur leur propre parcours de vie. Donc, c'est des beaux moments. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on n'est pas en direct, nous, avec les malades qui viennent avec des pèlerinages. On est plus l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes au service d'abord du sanctuaire et de toutes les hospitalités qui viennent du monde entier. C'est-à-dire, on leur met à disposition des repas. Par exemple, on a une restauration pour une partie des hospitaliers qui viennent manger. On va mettre nos hospitaliers au service à la gare ou à l'aéroport pour sortir les malades des avions ou des trains. On va avoir des personnes qui sont aux piscines pour faire le geste du bain ou de l'eau, le geste de l'eau. Alors, ça va changer cette année, mais c'est pas grave. Mais c'est, voilà, on est au service. J'en citerai plein d'autres parce qu'on a les cérémonies, la liturgie, voilà. Il y a plein de gens, des petites mains. On les aperçoit parfois, mais on essaie d'être le plus discret possible parce que ce n'est pas nous qui sommes les essentiels de la rencontre entre la Vierge, Jésus et le malade. Donc, il faut savoir rester derrière pour que ces gens-là vivent le plus intensément ce qu'ils veulent vivre à Lourdes.
Donc, c'est une forme de bénévolat. Mais un bénévolat dans lequel il y a quand même toute une dimension spirituelle. Je parlais de bras et de cœur. L'engagement, il n'est pas juste humanitaire, quand même.
Ah non, oui. On est... Comment dire? Quand on est hospitalier, alors d'abord, si on veut, on peut s'engager. Et c'est un engagement à vie. Ce qui veut bien dire que quelque part, on passe un contrat, je vais dire, avec Jésus, puis avec la Bonne Vierge de Lourdes, quoi.
Comme vous l'avez passé d'ailleurs, vous nous raconterez cette histoire.
Voilà, et c'est quelque part un engagement. Et aussi, quand on s'engage, on dit, ce n'est pas que lorsqu'on est à Lourdes, c'est toute notre vie. Donc quand je suis chez moi en Anjou, je dois me souvenir, je suis aussi hospitalier.
Mais c'est pas une servitude.
C'est pas une servitude, c'est une joie. C'est une joie d'être au service des autres.
Donc il y a le service à Lourdes que vous rendez chaque année selon vos possibilités puis, et compétences. Et puis il y a aussi l'esprit de Lourdes duquel vous vivez tout au long de l'année.
Voilà, le message, enfin je dirais le message global, mais surtout les phrases qu'a dites Marie à la petite Bernadette. Et réciproquement, Bernadette qui va dire des petites choses à certains moments de sa vie qui sont marquantes et qui nous portent aussi dans notre activité, quoi. Tous ces gestes, par exemple, que Bernadette vit au pied de la grotte, presque humiliant, la boue, l'herbe, ça nous rappelle à être des gens simples, des gens serviteurs. Moi, c'est ce mot qui me marque beaucoup. Puis c'est le mot du Christ, être au service. Hein. Et puis ces petites phrases, quand elle dit « Je ne suis pas chargé de vous faire croire, mais de vous le dire », combien de fois en tant que chrétien on est appelé à dire et non pas à faire convaincre? Ça, c'est pas notre boulot, c'est l'Esprit Saint, c'est la foi qui va faire bouger des gens. Mais nous, on est chargé de dire. Et comme je pense, tu vois, ce trajet Anjou-Lourdes, j'ai pas le droit de le rater quand les gens me questionnent. C'est un moment où on peut dire des choses tout en respectant la personne. Mes anciens métier, c'était ça aussi. Et je crois qu'on est dans un monde là actuel où les chrétiens ont à dire de plus en plus fort ce qu'ils croient. Il ne faut pas qu'on soit des taiseux. On a à dire ce qui nous porte dans un monde qui souffre, qui se pose des questions. Voilà.
Et puis ce message de Lourdes, qui a cette dimension un peu pénitentielle, hein, dont vous parliez, a aussi cette magnifique promesse du bonheur. de la source, de la joie de la rencontre et du regard qu'on porte sur la vie qui peut nous faire basculer dans le paradis ou dans l'enfer, d'une certaine façon.
Et je crois que pour beaucoup, hospitaliers comme pèlerins, ils vivent des choses ici à Lourdes. On ne se rend pas compte sur le coup de ce qui se passe, mais avec du recul, on se dit « Oh bon sang, quelle grâce j'ai reçue !» Quelle grâce j'ai reçue tout d'un coup. La Vierge, c'est une sacrée artiste parce qu'elle sait peindre, moi je dis, par petites touches. Et puis là, au fur et à mesure, les touches font un beau tableau dans notre cœur.
Avec Marcel, votre épouse, vous avez des enfants, quatre filles qui portent toutes le nom composé, mais avec Marie.
Marie,
oui. Et on va voir que quand même, la Vierge Marie, la foi lourde, à compter dans votre parcours, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Vous faisiez allusion à vos métiers, vous avez été enseignant en maths, vous avez été chef d'établissement scolaire, divers établissements, et puis aussi une grosse responsabilité comme directeur de diocésain adjoint de l'enseignement catholique.
J'ai laissé le poste principal à celui qui y était.
Mais on en revient à ce que vous vivez aujourd'hui. Vous prenez votre retraite en 2023.
Oui, décembre 2023, oui.
Vous êtes un homme actif, très actif. Mmh. Et là, se joue une bascule pour tout un chacun, surtout lorsqu'on a eu une vie professionnelle comme la vôtre. Pourquoi cet engagement en 2023, cette bascule d'un engagement plus fort à Lourdes? Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie?
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut remonter une dizaine d'années avant. J'étais en double direction d'établissement, donc deux établissements pas du tout pareils, un petit et un gros. Les gens croient parfois d'ailleurs que je touchais double salaire de chef d'établissement, ce qui n'était pas le cas. C'était pour soulager le petit qui était en grande difficulté que mon directeur diocésain m'avait demandé de gérer les deux. Sauf que je vais y laisser un petit bout de ma santé, parce que c'était deux gestions totalement différentes, double réunion, double rencontre, enfin tout était doublé. Et un petit cancer des familles va me tomber sur le coin du crâne. Bon, ça vous remet les pendules à l'heure aussi. Tout d'un coup, on se dit, attention, le travail aussi, il ne faut peut-être pas y laisser sa vie. Qu'est-ce que je dois changer? Et puis, je ne sais pas pourquoi, très rapidement, dès que le médecin m'a pronostiqué ce que j'avais, j'ai pensé à Notre-Dame de Lourdes. Ou je pense plutôt que c'est elle qui m'a envoyé un petit SMS à sa façon pour me dire « ne m'oublie pas, quoi ». Et je lui ai fait une promesse. Je lui ai dit « écoute, si je m'en sors, parce que quand on nous annonce ce mot-là, hein, ça refroidit quand même la personne, si je m'en sors, ben j'irai te donner du temps à Lourdes
bon. ». Et ça, c'est en 2013.
Voilà, voilà. Je vis les examens, je suis opéré. Tout se passe bien, au point que d'ailleurs les infirmières étaient surprises dès le lendemain de l'opération, puisque je n'ai jamais eu mal. Elles m'ont pas cru quand je suis rentré. Non, quand elles sont rentrées dans la chambre, elles me disent « Vous avez mal ?» Je dis non. Pour taquiner, parce que j'aime bien taquiner, je dis « Vous voulez que je pleure pour vous dire que j'ai mal ?» Mais je n'ai pas mal. Bon, « Vous avez utilisé la morphine ?» Pas du tout, je ne savais même pas que c'était la pompe là, qui était sur le côté du lit. Pas mal. Elle m'enlève la morphine, je n'ai jamais eu mal de ce temps où j'ai passé à l'hôpital. Et il n'y aura aucun suivi après médical, tout va aller très bien, tout se passe bien. Je me suis dit, la bonne Vierge, là, tu m'envoies un petit message. Alors maintenant, je te fais une promesse. Il va falloir la tenir parce que tu t'es engagé, et tu ne peux plus reculer. Et donc je vais accepter de venir à Lourdes comme hospitalier. Et je me souviens là aussi, j'ai commencé tout de suite cet esprit de service en disant « Vous me mettrez où vous voudrez.
Bon. » Vous ne dites même pas que vous avez des responsabilités.
Non, non, non.
Vous voulez entrer vraiment dans le service le plus humblement possible.
La personne qui m'avait un peu téléguidé pour dire « Va à Lourdes, l'hospitalité de Lourdes a besoin de monde », elle savait qui j'étais. Hein.
Oui.
Mais je ne voulais pas en faire cas. Et puis j'ai simplement dit « Je veux démarrer en bas, je suis un simple ». Je n'avais que 5 semaines de vacances, donc j'ai dit je ne pourrais donner qu'une semaine par an. Quoi. Bon. Et ça a démarré comme ça, un certain nombre d'années. Et puis, au moment de la retraite, la dame qui était la trésorière là, de l'hospitalité a dû arrêter, pour des raisons personnelles. Et il y a toujours des gentils traites qui disent « Mais lui, là, il va être à la retraite bientôt, il travaille déjà, il m'avait mis au service comptabilité de l'hospitalité, il pourrait bien passer trésorier général. Donc je me suis fait rattraper par la patrouille là aussi, et je me suis dit, c'est un clin d'œil du ciel quoi aussi, Marie a besoin de moi là. Voilà, pour moi c'est... Alors, c'est une décision à prendre en couple. Hein. On est venu 3 fois cette même année-là sans rien dire à personne pour voir de quoi il retournait et quelle était cette responsabilité à laquelle on m'appelait. Mais, bon, ma femme a dit oui, ok. Elle savait que ça m'engageait à 8-10 jours par mois à Lourdes. Hein. C'est quand même pas rien. Je viens tous les mois de l'année. Je travaille avec une super équipe. J'estime que j'ai une grâce là aussi d'avoir des gens avec qui c'est un plaisir de travailler, mais c'est encore une fois un service. Et un hospitalier italien m'avait dit, plus tu montes, plus tu dois être serviteur des serviteurs. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Plus je suis en responsabilité, plus je dois aussi me faire petit. Et une phrase hein, de Jésus, je crois bien, faut éviter de s'élever, faut plutôt s'abaisser, ben, c'est ça. Et moi, ça me parle.
À une époque, on a des difficultés parfois, ou les générations ont des difficultés avec l'engagement tel que vous le décrivez. Vous avez conscience que c'est pas très simple d'encourager à la relève, oui. De permettre à d'autres, oui, de s'engager. Ça paraît, au fond, assez contraignant, ce que vous racontez. Oui. Alors qu'on peut entrer à l'hospitalité de façon assez simple.
Ah bah oui, bien sûr.
Il n'y a pas besoin de montrer patte blanche.
Je dirais, encore une fois, là, c'est notre responsabilité de chrétien, hein. C'est de dire. Là où je vis, bon, j'ai déjà 3 nouveaux hospitaliers que j'ai recrutés, en disant aux gens, tiens, ben voilà, pourquoi je descends. Les gens savent, ils ne me voient pas toujours dans la paroisse. Où est-ce que tu étais dimanche dernier? Ben, j'étais à Lourdes. Ah ben, tu y étais le mois d'avant. Eh ben oui, ben voilà, je... Et hop, il y a un fil rouge qui se délie. Et les gens, à chaque fois, je leur dis, mais moi, je te verrais bien à Lourdes aussi. Alors, ils en font ce qu'ils veulent. Mais certains, ils reviennent après. Mais alors, tu m'avais parlé de Lourdes. Alors, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je ne me vois pas m'occuper de malades. Ah, je dis, rassure-toi, l'hospitalité, on ne s'occupe pas directement des malades. Il y a les pèlerinages qui ont leur personnel pour ça, infirmiers et tout. Mais il y a plein de choses à faire. Les hospitaliers, ils vont, par exemple, tirer les malades dans les petites voitures bleues pour les déplacer. Nous, il y a l'hospitalité de Lourdes, on est au service de toutes ces hospitalités. Il y a le centre du bénévolat aussi pour d'autres. Il y a plein de lieux et les gens découvrent, quoi. Puis tout d'un coup, ils viennent. Là, cette année, je vais rentrer, je dois rencontrer 3 nouvelles personnes qui se posent la question. Et on est en gros, nous, l'hospitalité, 7000. Mais je dis, si chaque hospitalier arrivait à appeler quelqu'un fidèle, faut pas que la personne vienne une fois et puis elle reparte, mais si on arrive à trouver quelqu'un de fidèle, on double la mise. C'est énorme. Ce serait génial pour Lourdes.
Ouais. Et on sent combien ça donne du sens à votre vie, Claude.
Ah oui, puis on se nourrit. Alors ça, je sais pas les gens qui m'écouteront, mais je peux vous assurer qu'on se nourrit quand on vient à Lourdes, spirituellement. Hein, ça me fait énormément de bien. Il y a ça, il y a l'internationalité aussi des gens qu'on rencontre. Il y a aussi, dès que tu rentres dans le sanctuaire, les gens te questionnent et dans un bon état d'esprit, quoi. Donc on fait des rencontres, mais toujours imprévues, toujours. Je ne suis jamais venu à Lourdes depuis 2 ans sans faire des rencontres incroyables. Au hasard, en se promenant, en se déplaçant, les gens vous parlent, tout d'un coup, ils ne se seraient jamais livrés. Alors des fois, bon, notre tenue d'hospitalier, il faut qu'ils m'appellent mon père. Alors je réponds gentiment, je dis oui, je suis mon père, mais de 4 filles. ça détend l'atmosphère tout de suite.
Donc des hommes, des femmes, des hommes de tous âges, de toutes conditions.
Oui, tout à fait.
Qui veulent humblement venir servir.
Servir.
Voilà. Et se mettre à disposition. Alors c'est comme ça. Vous l'avez fait vous quand vous étiez encore en fonction.
En fonction, oui.
Une semaine.
On donne ce plus qu'on peut en temps. Quand on travaille, c'est vrai, ben, parfois ça peut être qu'une semaine. Mais je vois par exemple, on a 6 services dans l'hospitalité. Il y en a plusieurs qui travaillent encore. Donc ils mettent leur travail en stand-by, d'une certaine façon, pour pouvoir venir remplir leur mission. C'est courageux de leur part. Hein. Oui.
Je pense à Maria Teresa qui est enseignante en Italie, voilà, dans le sud de l'Italie et qui a une responsabilité
Christina,
bénévole.
Enseignante en Allemagne, qui vient d'être nommée, oui, bah oui, pareil, oui. Oui. C'est courageux de faire.
C'est un des visages qu'il faut faire découvrir à temps et à contre-temps de Lourdes, cette réalité du service.
Oui. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est que nous, hospitaliers, on ait toujours le sourire. Qu'on n'ait pas des têtes de grincheux, parce que c'est ça. Les gens viennent à vous quand ils sentent que votre visage porte un regard évangélique aussi, quelque part, de joie. On n'est pas là pour être triste, pour se faire mal ou pour se martyriser face à toute la maladie du monde. Non, c'est pas ça. C'est justement, on est dans la joie d'être avec d'autres personnes de tout style, de tout pays.
Nous allons marquer une pause dans cette émission, Claude Chevalier. Juste après cette pause, nous reprenons le fil de notre conversation et vous nous raconterez votre histoire. Alors là, c'était l'histoire avec Lourdes. Mais votre histoire, c'est aussi une histoire d'enseignant, une histoire familiale avec quatre filles dont vous êtes très fiers, avec votre épouse Marcel, et puis un lien avec l'Égypte. Tiens, on en parlera.
Oui.
À tout de suite.
Présence.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller ? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Présence.
De passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Notre invité aujourd'hui, c'est vous, Claude Chevalier. Je vous ai présenté comme le trésorier, c'est-à-dire l'argentier de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Alors dit comme ça, on peut se dire cette émission va être consacrée aux sous. En effet, c'est une très belle organisation de bénévoles que l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, qui a besoin d'être gérée. À votre retraite, vous avez été nommé, élu même, je crois, au sein
appelé par l'évêque, par Père Toban, puis par le président de l'hospitalité.
Pour être trésorier de cette belle organisation dont vous nous disiez qu'elle était d'abord la mobilisation de bras de cœur, mais humble, au service du message de Lourdes et du sanctuaire. Pour le faire rayonner par notamment le sourire.
Oui, tout à fait.
Et notamment la joie d'être là. Votre histoire qui aurait pu être douloureuse avec Lourdes, c'est quand même l'histoire d'un cancer dont vous ne vous expliquez pas, si ce n'est l'intervention de la Vierge Marie, la guérison.
Il s'est passé quelque chose. On saura la mort.
Une promesse. Et puis cet engagement 10 ans après, aussitôt que vous prenez votre retraite en 2023. Vos filles, je l'ai dit dans la première partie de cette émission, ont toutes le prénom de Marie. Marie-Thérèse, Marie-Catherine, Marie-Laure, Marie-Agathe. Au fond, la question de la foi et de la Vierge Marie, c'est toute votre vie. C'est un fil conducteur depuis votre tendre enfance, non ?
Ah oui. Ah oui. Comment dire ? Moi, je l'appelle la maman du ciel. On a une maman de la terre, mais on a aussi une maman du ciel. Ça, c'est très clair. Il ne faut pas l'oublier, quoi. Puis elle a un sacré poids, cette Marie du ciel, puisque elle a éduqué un petit gamin qui s'appelait Jésus, il me semble. Elle va lui mettre les pieds dans le plat à Cana, en lui disant...
Ils
n'ont plus de vin. Elle lui dit pas « tu dois
oui. »,
mais elle dit « ils n'ont plus de vin ». Et elle laisse son propre fils, là, Dieu, libre de faire le premier miracle ou pas. Mais elle est subtile, le Marie, donc... Je me dis toujours, il faut pas l'oublier, cette maman du ciel. Voilà. Alors mon histoire avec la foi, c'est que mon premier voyage familial dans les années 1970, je sais pas si on peut imaginer, sept de la famille dans une 4L. Les gens, je sais pas si ça leur parle aujourd'hui une 4L, mais à l'époque il y avait pas les ceintures, heureusement. Trois devant, trois derrière, un dans le coffre, les valises sur le toit. Et notre premier voyage, ce sera Lourdes. Et ce voyage m'a énormément marqué. Face à la grotte, c'est là que je me suis senti rejoint par cette bonne Vierge de Marie, à tel point que, je peux le dire, Je me vois encore demander à ma mère, face à la grotte, est-ce que je peux m'agenouiller ? Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'idée. Et je me suis agenouillé devant cette grotte, quoi.
Et là, il s'est passé quelque chose voilà. d'assez indicible.
Là, je pense qu'elle a dû me mettre la première marque, là.
Oui.
Et puis après, bah, les années vont passer. Je vais être étudiant. Je ferai plutôt les conférences Saint-Vincent-de-Paul, jeune. J'étais responsable d'une équipe. Et puis, on a décidé pendant l'été, on faisait des camps itinérants d'animation dans des maisons de retraite, hospices et tout, à l'époque. Et on finissait Lourdes. Et on s'était dit, on sera brancardier. Et le pèlerinage qui correspondait à nos dates, c'était celui de Corrèze, pèlerinage de Tulle. Et on sera à leur service. Donc, ça va être la reliance à nouveau avec Lourdes. Et l'année qui va être marquante, c'est 1981. Il y a 50 professeurs de français égyptiens qui viennent en formation à la Cato d'Angers, chrétiens, musulmans, mais qui veulent tous venir à Lourdes. Et je me souviens que le responsable m'a dit « Ouh là là, 50 égyptiens dans les rues de Lourdes, je vais en perdre la moitié ». Et il me dit, est-ce que t'accepterais, toi qui animes des groupes de jeunes, de venir m'aider? Et je vais dire oui. Et dans le bus qui descend à Lourdes, une jeune fille s'assoit à côté de moi. Elle s'appelle Marcel. On va discuter. Et puis, ben, elle deviendra ma femme. Donc, je suis marié à une copte catholique du Caire. D'où, on avait dit, si on a des filles, elles auront toutes le prénom de Marie, puisqu'on s'est rencontrés à Lourdes. Je pense qu'on n'est pas les seuls à s'être rencontrés à Lourdes. Hein,
en couple. Pour vous, c'est un peu singulier tout de même. Et vous allez. Est-ce que c'est avant ou après passer une année d'enseignement en Égypte ?
Voilà. Elle me dit, on se mariera pas si tu viens pas en Égypte. Et moi, le Mayennais de la Mayenne profonde, je lui ai dit oui. Donc je suis parti en Égypte avec, comme Linda de Souza, ma valise en carton, sans contrat français, sans contrat français. Donc je vais faire l'expérience de l'enseignement, mais comme un professeur égyptien. Avec un micro-salaire, avec des conditions pas simples. Mais c'est une joie énorme aussi de rencontre. Et puis de découverte d'un autre monde, d'une autre civilisation, d'une autre façon de vivre. Là aussi, c'est une leçon que j'ai apprise. Quand on est pauvre, on n'a pas peur d'accueillir. Parce que je me suis trouvé parfois accueilli par des familles d'une grande pauvreté. Et quand on partait, elles me disaient « mais on vous a mal accueilli ». Et moi, j'avais honte. Je disais, mais en France, jamais on n'oserait accueillir les gens comme ils m'ont accueilli. Et ça m'a fait comprendre que quand on est riche, on a peur de perdre ce qu'on a. Quand on est pauvre, on accueille. On accueille avec vérité, quoi.
Ouais. Au retour d'Égypte, vous continuez l'enseignement en mathématiques.
Voilà,
vous êtes professeur
voilà,
de maths.
De maths. Quelques années.
Et puis ensuite, assez vite, je ne sais pas comment, peut-être on vous repère, mais vous souhaitez aussi peut-être exercer d'autres responsabilités, vous devenez chef d'établissement.
Oh non, je n'ai jamais cherché.
On vous a repéré.
On m'a toujours appelé. Pour la première direction, ça a été un cas particulier, puisque le chef d'établissement est mort suite d'un accident de voiture. Et donc le directeur diocésain est venu chez moi le vendredi soir, le 10 janvier, ça je me souviendrai toujours, pour me dire, j'ai besoin de vous pour prendre une direction, là. Bon, j'ai combien de temps pour réfléchir ? Demain midi. Et lundi matin, j'étais dans l'établissement, oui, suivant. Donc ça, j'ai vraiment été appelé, je ne regrette pas, parce que ça m'a permis de bouger. Puis quand je vais prendre des responsabilités, je dirais toujours 3, 6, 9. Au bout de 9 ans, il faut partir, parce que sinon on use les troupes, on rentre dans la routine. Et donc régulièrement, les directeurs diocésains successifs me connaissant m'appelleront à de nouvelles responsabilités, changer.
Donc durant 30 années, vous allez diriger différents établissements,
voilà,
des très
voilà.
gros établissements scolaires,
ou même un petit,
des plus modestes.
Voilà, oui, des établissements à sauver, qui étaient dans des catastrophes financières. Quand on vous renvoie là-bas, c'est vraiment une mission, quoi. Alors c'est drôle d'ailleurs, la vie, le regard des hommes. J'avais plus de 1000 élèves, je passe à un petit qui était à 400, et certains collègues m'ont dit, t'as fait une faute pour être envoyé là-bas. Mais ceux qui avaient le bon sens disaient, bon, on se doute que le directeur diocésain t'a envoyé là-bas pour une mission. Voilà. Et c'était vraiment ça. Peu importe, c'est pas une carrière croissante. La mission, elle nous appelle là où il faut aller, il faut accepter. Passer de 1000 élèves à 400, ben, c'est ça. C'est ça. C'est être serviteur.
Et puis, ensuite, une étape importante dans votre carrière, c'est le fait de passer l'accompagnement des directeurs d'établissement.
C'est ça, oui. Alors, il y aura deux.
Vous n'en êtes plus, mais vous les accompagnez.
Oui, oui.
À la direction diocésaine.
C'est ça. Alors, juste avant, je vais avoir cette, je ne sais plus combien d'années, autour de 8 ans, pour former, faire partie de l'équipe de formation des chefs d'établissement de France sur Paris et Montrouge. Là. Et là aussi, ça va être passionnant de voir comment les gens visent des responsabilités. Il y a des carriéristes, ça existe. Hein. Ils rêvent à une carrière, quoi. Alors, puis il y en a d'autres, ils comprennent pas pourquoi on les a appelés. Alors ceux-là, ça me rassure souvent, parce que c'est ceux-là qui vont être les bons. Ils comprennent pas pourquoi on leur dit, mais vous, on a besoin de vous, quoi. Et c'est ça, je crois aussi, partout en évangile, quand on a besoin d'hospitalier, c'est dire, j'ai besoin de toi.
Cette notion de l'appel, oui. Ça semble important pour vous.
Ah oui. Partout, même pour dans le métier de prof, des fois des gens étaient un peu, comment dire, dans une coquille, ils n'osaient pas se révéler, et dire aux gens, viens me voir, alors quand c'est le directeur qui appelle, on a toujours peur un peu, puis de dire, mais j'ai repéré quelque chose en toi, pourquoi tu ne le mets pas en avant? Et les gens sont surpris. Et j'aime beaucoup cette phrase, parce que je pense que c'est la phrase que le Christ nous dit à tous, j'ai besoin de toi. Alors, je ne me prends pas pour le Christ, hein, mais je crois de lui, c'est un message qui me fait passer, savoir appeler les gens à oser sortir de leurs habitudes et d'oser prendre une responsabilité. Quoi. C'est une mission. Quand Jésus dit, qu'as-tu fait de ton frère? Moi, je crois qu'à la mort, Enfin, je dis ça en blaguant, mais dire, qu'as-tu fait de celui-là? Qu'as-tu fait de celui-là? Est-ce que t'as su l'appeler? Est-ce que t'as su le mettre en route? Je crois à ça.
Vous repreniez à l'instant cette phrase du Christ, qu'as-tu fait de ton frère? Pardon, le lien il est ce qu'il est, mais parlons de votre frère, justement. Ah,
mon jeune frère.
Votre jeune frère.
Oui.
Ça a été un choc, ça a dû même bousculer votre foi. Son suicide,
oui.
Alors même qu'il semble qu'il ait tout pour réussir dans la vie.
Oui, c'était notre petit frère qui avait des talents, énormément de talents. Et puis un jour, ce geste-là qui vous bouscule dans la vie, ça ne m'a pas mis en cause ma foi. Parce que je me suis dit, la première chose, il va rejoindre le ciel, parce qu'il a quand même fait des belles choses. Quoi. Il va rejoindre le ciel. Mais ça te secoue intérieurement, dire mais qu'est-ce que j'ai raté pour ne pas avoir vu qu'il allait pas bien, quoi. C'est ça. En même temps,
il n'a pas 30 ans lorsqu'il se suicide.
Oui, c'est ça, il
n'a
pas 30 ans, oui. Incompréhensible. Mais c'est surtout que 15 jours après, bon, j'en avais pas trop exposé l'événement là où je travaillais, et une personne vient me voir, on discute, je vois ça encore un samedi matin dans mon bureau, et il embraye sur la notion du suicide et il dit: de toute façon, ceux qui se suicident, ce sont des lâches.
Oh, sans savoir ce qui vous était arrivé.
Non, il ne savait pas ce qui m'était arrivé. Il ne savait pas. Non. Je me prends ça dans la figure. Ça m'a secoué. Hein. Sur le coup, ça m'a secoué. Je n'en ai pas voulu, le pauvre, parce que ça m'a pris une chose, ne pas juger. Bon sang, il y a une phrase dans les évangiles, ne jugez pas, ou vous serez jugé de la manière dont vous jugez les autres. Alors attention, hein. Ça, c'est une sacrée leçon, quoi. Et puis il y a pardonner comme on demande à Jésus, pardonne-nous plutôt comme nous pardonnons, hein. Donc attention. Et ce jour-là, j'ai compris la leçon de ne pas juger, mes frères. J'aime beaucoup, par exemple, quand je vais à la grotte le soir après la journée de boulot, on peut l'appeler un boulot là, le trésorier. Prendre un petit temps, soit à la grotte ou en face, quand il y a beaucoup de monde. J'aime bien me mettre de l'autre côté, c'est plus tranquille. Mais de voir tous ces gens qui passent dans la grotte, des grands, des petits, des gros, des mecs, des vieux, des jeunes, des malades, des pas malades. Et je me dis, je ne sais pas ce qui les porte, mais ils sont là, ils sont au pied de la Vierge. Il y a quelque chose qui est en train de se passer entre eux et le ciel. Je n'ai pas à les juger. Même si je me dis, ils ont l'air bizarres, ça ne me regarde pas. Le Christ, il nous regarde comme on est, donc c'est lui qui a le meilleur regard. Ça, c'est une leçon que j'ai prise avec cette parole que j'avais reçue à la mort de mon frère, quoi, 15 jours après. Ne jugez pas.
Merci beaucoup, Claude Chevalier. Ne jugez pas. Et venez et voyez pour ce qui est de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. On invite évidemment pour terminer cette émission.
Pas peur. Que les gens n'aient pas peur de
N'ayez pas peur de venir voir ce qui se vit à Lourdes.
Aïe.
Merci beaucoup, Claude Chevalier, pour la sincérité et la force de votre témoignage. On salue votre famille parce qu'on sait qu'ils sont aussi engagés auprès de vous.
Ah, ils sont tous.
Et qu'ils aiment beaucoup Lourdes également.
J'ai une grâce. J'ai 4 filles qui croient et qui portent la foi aussi.
Qui ont aussi des talents artistiques indéniables et qui transmettent la foi par la voix, par le chant notamment.
Les quatre chantent
merveilleusement. Et donc on vous remercie beaucoup, Claude Chevalier, et on invite tous ceux qui nous voient, qui nous écoutent, à s'intéresser à l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Il y a besoin
d'oser
de
franchir le pas.
Oui.
Que ce soit chez les bénévoles, au sanctuaire ou à l'hospitalité de Notre-Dame de Lourdes ou dans une hospitalité diocésaine. On a tous besoin de bras.
Ça donne du sens à la vie, en tout cas. Merci. Ouais.
Voilà.
Au revoir.
Au revoir.
Présence
de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier. Les podcasts de Radio Présence.
Podcast de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
De Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher, être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs, être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. De Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part, je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Pareil.
Présence, dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Léon XIV reçoit les maires de son état d'origine, l'Illinois, l'occasion pour le Saint-Père de rappeler les devoirs